bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Un village bédouin menacé de destruction pour qu'une colonie israélienne s'y installe. 25 ans après les accords d'Oslo, la paix entre les Palestiniens et les Israéliens semble loin, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, nous irons en Allemagne où 1600 membres du clergé sont accusés d'abus sexuels sur des mineurs. Une fois encore, l'Église aurait minimisé sciemment la gravité et l'ampleur des faits. 8 milliards d'euros pour lutter contre la pauvreté en France. Elle touche 9 millions de Français, dont 3 millions d'enfants. Les enfants pauvres, ça n'existe pas, nous expliquera le directeur de l'Observatoire des inégalités. Et puis Richard Ferrand est le nouveau président de l'Assemblée nationale, élu et plutôt mal élu hier par la majorité qui semble s'être éparpillée. Il y a 25 ans, Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, serrait la main de Yasser Arafat, dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, en présence du président américain Bill Clinton. Les accords d'Oslo étaient censés mener à la paix et à un État palestinien indépendant. En 2018, cette image semble bien loin et un village bédouin dans les territoires palestiniens symbolise cette impasse, celui de Ran al-Armar. Après des années de batailles judiciaires, la Cour suprême d'Israël a accepté la destruction de ce village pour le remplacer par une colonie. Marie Semelin s'est rendue sur place.
Nous sommes au bord de l'autoroute, c'est là que se trouve Ran al-Armar. 200 personnes y vivent dans un enchevêtrement de tôles et de bâches comme Aïdja Aline, 51 ans.
Ça, c'est ma maison. De ce côté, il y a l'école. Et là, la vallée, c'est la limite entre les Bédouins et les colons. Il y a 3 membres de la Knesset qui vivent ici, dont le ministre de l'Agriculture. Après la route, à 600 mètres, c'est une zone militaire. On ne peut même pas faire paître nos bêtes.
Le drame du village, c'est d'être au milieu d'une zone stratégique entre Jérusalem et une colonie de 40 000 habitants, Maale Adumim. Si le village est détruit et la colonie étendue, la Cisjordanie sera coupée en deux entre le nord et le sud. Alors il est devenu un symbole, celui de la disparition sur le terrain de la possibilité d'un État palestinien. Israël veut depuis longtemps évacuer cette zone, mais pour Walid Assaf, ministre palestinien en charge de la lutte contre l'occupation, l'État hébreu a désormais les mains libres pour le faire.
Le contexte international convient maintenant aux Israéliens pour mettre en place leur politique. Ils ont le feu vert de l'administration Trump pour continuer la colonisation.
Les responsables palestiniens se tournent maintenant vers la Cour pénale internationale. Ils accusent Israël de crimes de guerre, notamment de transfert forcé de population.
L'armée birmane aurait pu mieux gérer la crise des Rohingyas. Aung San Suu Kyi le reconnaît, conseillère spéciale de l'État birman, prix Nobel de la paix en 91, critiquée depuis un an pour son silence face aux violences contre la minorité musulmane. Ils sont 700 000 à avoir fui vers le Bangladesh depuis un an. Quand les scandales de pédophilie éclaboussent l'Église catholique à grande échelle, Australie, Chili, États-Unis et une nouvelle fois l'Allemagne, un rapport vient d'être rendu du public. Il couvre une période allant de 1946 à 2014 et fait état de milliers d'abus sexuels commis par des religieux sur des mineurs. Des abus passés sous silence pendant des décennies, Ludovic Piétenu.
3677 victimes, en très grande majorité des garçons âgés de moins de 13 ans. 1670 religieux, des prêtres, des diacres ont commis ces abus pendant près de 70 ans. Un chiffre sans doute en deçà de la vérité, car l'équipe de chercheurs qui a pourtant travaillé à la demande de l'Église, qui souhaitait faire la transparence, a rencontré beaucoup d'entraves. L'Église, écrivent-ils, a détruit ou manipulé de nombreux documents. Elle a minimisé sciemment la gravité et l'ampleur des faits. Christian Weisner est un catholique réformateur du mouvement Nous sommes l'Église.
Ce que l'on voit ici, c'est la partie émergée de l'iceberg, seulement le début d'un scandale plus grand. Malheureusement, c'est la même chose partout et c'est vraiment un dommage général pour l'Église catholique romaine.
Ce rapport préconise comme solution l'abandon du célibat pour les prêtres, de ne pas non plus interdire aux hommes homosexuels d'exercer un ministère. La presse allemande et notamment l'hebdomadaire Die Zeit, qui avec Der Spiegel ont révélé le contenu de ce rapport, suggère également aux autorités catholiques de lire l'intégralité de ce document.
Le Parlement européen dénonce la menace systémique pesant sur les valeurs de l'Union en Hongrie. Les députés ont ainsi activé une rare procédure hier, procédure qui pourrait à terme conduire à des sanctions contre Budapest. Le Parlement européen qui par ailleurs a adopté hier aussi la proposition de directive relative aux droits d'auteur sur Internet, un projet très attendu par le milieu de l'édition et de la presse, mais décrié par les plateformes et les partisans d'une liberté sans limite sur Internet. Internet. Lutter contre les inégalités de destin, voici l'objectif d'Emmanuel Macron, qui doit présenter ce matin son plan pauvreté. Un plan à 8 milliards d'euros, selon le porte-parole du gouvernement. Dans un contexte où l'on fait attention à la dépense publique, c'est un choix politique très fort, souligne d'ailleurs Benjamin Griveaux. Il est notamment question de mettre l'accent sur les 3 millions d'enfants pauvres en France, en prévoyant une aide au petit déjeuner pour les écoliers des quartiers prioritaires. Invité du journal de 22h hier soir sur France Culture, Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. C'est une mesurette inutile, disait-il.
Il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que les enfants pauvres, ça n'existe pas. Les enfants pauvres sont pauvres parce que leurs parents sont pauvres. Et lutter contre la pauvreté des enfants, c'est lutter contre la pauvreté de leurs parents, en particulier les femmes qui sont mères de famille monoparentales. C'est le problème numéro un des enfants aujourd'hui. Les mesures gadgets comme le petit déjeuner gratuit dans certaines zones, écoutez, c'est à la limite de la méprise pour ces familles-là.
Mais ça peut aider tout de même.
Bien sûr, ça peut aider de manière très marginale. Le problème n'est pas que ces familles ne donnent pas à manger parce qu'elles n'ont pas les moyens à ces enfants. Ces familles rencontrent des problèmes de précarité d'emploi, de bas salaire, de difficultés de logement, de coûts de logement trop élevés quand il n'y a pas de logement social. Le petit déjeuner, on est purement dans la communication et ça ne résoudra vraiment rien.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Et puisque Louis Morin évoquait à l'instant l'accès à l'emploi, voici une tendance confirmée par l'INSEE hier. La création d'emplois dans le secteur privé a continué de ralentir au deuxième trimestre, la faute à un trou d'air dans la croissance. On est loin des chiffres de 2017 où les effectifs dans les entreprises avaient bondi de près de 90 000 personnes en plus par trimestre. Ce ralentissement cette année commence à se manifester également dans l'intérim, Jean-Marc Chardon.
Et comme l'intérim joue un peu le rôle de baromètre de l'emploi, on le considère comme un indicateur avancé, alors son évolution est observée de près. Il a grimpé, l'intérim, fortement grimpé depuis 2014 et il a continué dans les premiers mois de 2018 avant de s'essouffler au cours de l'été comme une période de stagnation. Alors que s'est-il passé? Ce sont les emplois issus de l'hôtellerie-restauration qui sont en repli, le commerce en général, un essoufflement parmi les emplois industriels, mais sans plus. Et c'est parmi les ouvriers que l'inflexion se fait le plus sentir, eux qui composent les gros bataillons de l'intérim. Pendant ce temps, les emplois cadres et d'employés continuent de progresser. Mais l'intérim n'évolue pas de manière uniforme. Avantage pour certaines régions, les Pays de la Loire, Rhône-Alpes-Auvergne, les Hauts-de-France, alors que l'intérim recule sensiblement en région parisienne, ce qui peut sembler étonnant vu les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. La question maintenant, elle est surtout de savoir si la tendance va s'inverser. Pas certain à la lecture des prévisions du baromètre de la société Manpower. Si les petites et moyennes entreprises envisagent plutôt des embauches, c'est moins le cas des plus grandes, comme si la prudence et l'attentisme revenaient à pas compter.
Sans surprise, c'est Richard Ferrand qui a été élu hier nouveau président de l'Assemblée nationale en remplacement de François de Rugy, entré lui au gouvernement. Mais Richard Ferrand a été élu à une très courte majorité, avec 11 voix de plus que nécessaire, 254 au total. Au contraire, le représentant du Modem, Marc Fesneau, a lui recueilli plus de voix qu'attendues, 86 au total, alors que les députés Modem sont 46. Marc Fesneau, qui n'était pas surpris hier, mais un peu gêné aussi.
Oui, je suis plutôt surpris du niveau de ce score. Mais c'est bien que ça ait pu s'exprimer. C'est normal dans la démocratie que je puisse exprimer la diversité de nos opinions, même si nous sommes dans la même majorité. Parce que je pense qu'une grande partie des voix viennent de ces rangs-là, probablement aussi des amis centristes du groupe UDI Agir. Nous ne serons pas déloyaux à la majorité. C'est une question de frondeur ou de godillot. Il faut qu'on puisse nourrir les débats pour, sur tel ou tel texte, améliorer, amender et puis pouvoir discuter avec le gouvernement. Et c'est le travail qu'on va faire. C'est peut-être ça ce qui s'est exprimé aussi.
Alors certains voient tout de même ce vote d'une partie d'En Marche pour le Modem, ce vote comme un déversoir au mécontentement d'une partie de la majorité. C'est un avertissement, dit le député socialiste des Landes, Boris Vallot.
Oui, il y a un côté un peu rappel à l'ordre de sa propre majorité, puisqu'il y avait un candidat du Modem qui a fait beaucoup plus de voix que ce qu'il pèse effectivement. Je pense qu'il faudra leur poser la question à eux, qu'une partie de la majorité espérait être surprise. Elle avait en mémoire sans doute que le candidat Macron, en mars 2017, disait à propos d'une femme au perchoir « c'est plutôt ma volonté ». Et puis au pied du mur, s'aperçoit que c'est pas plus tôt, mais c'est plus tard. Le pluralisme, ça n'est pas qu'une proclamation, il faut des actes.
Des réactions recueillies à l'Assemblée nationale par Stéphane Robert. La douce France des années 80 pleure Rachid Tahar, le chanteur figure du rock français, est mort hier. Il a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 59 ans. Le ciel sera souvent nuageux ce jeudi. Des pluies sont attendues du centre Val-de-Loire jusqu'à la frontière belge, en passant par l'Île-de-France. Averses qui vont se décaler en Rhône-Alpes cet après-midi. Les températures se rafraîchissent un peu, avec 15 degrés ce matin à Brest, 17 à Paris, 22 à Grenoble, 25 près de la Méditerranée.